L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. L'invité de l'émission d'aujourd'hui est M. Ivan Koenig, égyptologue, chercheur à CNRS, professeur à l'Institut catholique de Paris et membre de la paroisse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov à Paris. Parmi ses livres, je suis étonné de découvrir, à côté de « Magie et magicien dans l'Égypte ancienne » et de ses nombreuses traductions des textes magiques égyptiennes, des livres de pères spirituels importants qui ont vécu au moins tôt au XXe siècle, qu'il a traduit récemment. Pendant cet entretien, il va nous conduire de l'Égypte ancienne jusqu'à la Sainte Montagne contemporaine. Je demandais d'abord à M. Koenig de nous dire quel est son domaine de recherche.
Je suis égyptologue, je suis au CNRS, j'enseigne aussi à l'Institut catholique, et mon domaine de recherche, c'est plutôt les textes qui étaient écrits dans une écriture particulière qu'on appelle le hiératique, écriture qui est une simplification à l'origine de l'écriture hiéroglyphique. Et donc, mon travail consiste à prendre ces textes, à les transcrire, à les traduire et à les commenter.
Et parmi les textes que vous avez traduits, il y a surtout des textes magiques. Est-ce que la magie était une coordonnée fondamentale de la culture égyptienne?
Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de textes magiques, mais cela tient uniquement au fait que ces textes ont été un peu laissés de côté, et comme je suis arrivé un peu après les autres, je me suis trouvé confronté à cette documentation. Mes premières publications ont concerné des textes documentaires, un peu des textes littéraires, et puis assez rapidement des textes magiques en assez grand nombre. Alors, ce que l'on peut dire sur la magie égyptienne, c'est qu'elle a un statut complètement différent de celui que l'on connaît dans notre société, dans la mesure où l'ensemble, la société égyptienne dans son ensemble, fonctionnait d'une certaine façon avec une pensée très différente, avec une pensée magique, où le mot était d'une certaine façon lié à la chose, et donc par ce biais-là, on pouvait avoir emprise sur la réalité. Par le langage, par qu'il soit exprimé, qu'il soit écrit, et par les textes. Et effectivement, beaucoup de ces textes aussi sont liés à des techniques de guérison de maladies, car pour les anciens Égyptiens, la maladie était le fait d'éléments étrangers, souvent des revenants, qui s'introduisaient dans le corps de la personne pour y causer des troubles. Ils n'avaient bien sûr aucune notion des microbes ou des choses comme ça, et donc pour eux, la maladie était le fait d'agents surnaturels.
Comment toute cette mentalité égyptienne a été changée au moment quand l'Égypte est devenue chrétienne?
À cela, il faut tenir compte d'un double facteur, en quelque sorte. Le fait que c'est une mentalité qui reste quand même très archaïque. Et d'une autre façon, on peut dire aussi que la pensée égyptienne était fondée sur une approche très rituelle. Et donc les temples étaient le lieu essentiellement de rituels qui étaient destinés à maintenir le dieu, donc à maintenir le monde pour prolonger son existence. Et ces temples étaient fermés sur eux-mêmes. Et les gens n'avaient pas accès, ou très peu, à ces temples. Uniquement, ils pouvaient voir le dieu lorsque celui-ci sortait, porté en procession, mais c'est à peu près tout. Et ils avaient besoin, en quelque sorte, d'une spiritualité. Et cette spiritualité ne trouvait pas à s'exprimer. C'est pour cela qu'à la basse époque, on voit un culte très répandu des animaux sacrés, on voit beaucoup d'amulettes. Et donc, contrairement à ce que l'on a dit, je trouve que le christianisme a pu s'implanter relativement facilement parce qu'il correspondait d'une part à un mode de pensée beaucoup plus évolué qui était celui du monde gréco-romain et deuxièmement il répondait en quelque sorte aux besoins de la population.
On pourra dire qu'il y a eu une certaine exorcisation de la culture égyptienne en pensant aussi au fait que l'Égyptien Saint-Antoine le Grand, au IVe siècle, choisit comme demeure pour son ascèse un tombeau égyptien.
Alors, il faut là aussi tenir compte de l'évolution des mentalités. Et du fait que, à l'époque, donc où se situe Saint-Antoine, la magie devient quelque chose de vraiment négatif, de noir, même on peut dire d'une certaine façon diabolique. Et donc l'appréhension qu'avaient les pères de cette pensée était tout à fait justifiée. Ils ont complètement raison de s'opposer à cette pensée qui d'ailleurs ne correspondait plus au mode de pensée de la population dans son ensemble. Donc, si Saint-Antoine se rend dans les tombeaux, ce n'est pas tant parce que les tombeaux sont des lieux, disons, inconfortables, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais c'est pour vraiment y combattre les démons, parce que à l'époque, donc, on perçoit cette religion comme étant le lieu des démons, et on juxtapose en quelque sorte à l'idée du martyr l'idée du combat spirituel. C'est-à-dire que ce sont non seulement les démons, mais ce sont aussi les passions contre lesquels il faut lutter, et cela correspond tout à fait à la vision qu'avait le christianisme de ce combat spirituel, puisque je vous rappelle que le Christ lui-même s'est rendu dans le désert pour y être tenté par les démons. Enfin, on peut souligner le fait que dans la conception égyptienne traditionnelle, le désert était le lieu des démons parce que c'était le lieu du dieu Seth, meurtrier d'Osiris. Et donc, si ce dieu Seth à l'origine, qui était un dieu simplement meurtrier, mais pas forcément négatif, négatif, il l'a été dans le courant de l'évolution de la pensée égyptienne. Mais de toute façon, les Égyptiens de toutes les époques ont toujours eu horreur du désert et ont toujours considéré que le désert était le lieu d'expression de force négative. Et donc là aussi, si les moines se rendent au désert, c'est aussi pour y mener le combat spirituel. C'est aussi pour se couper de la réalité. C'est-à-dire que ils considèrent souvent que les laïcs, en quelque sorte, mènent un certain type de combat, qui est le combat contre les sollicitations les plus évidentes qui s'offrent à nous. Il n'y a qu'à sortir dans la rue pour être sollicité ou pour être tenté. Alors que les moines vont se situer à un niveau un peu plus avancé, où ils vont lutter contre les passions. Et donc, c'est dans le combat contre les passions que va, en quelque sorte, s'exprimer cette spiritualité.
L'Égypte chrétienne survit toujours à travers l'église copte et vous avez de très belles icônes coptes ici, chez vous. Et justement, les Égyptiens ont complètement abandonné leur religion païenne en devenant des chrétiens, donc jusqu'aujourd'hui. Mais au 19e siècle, quand l'Europe occidentale redécouvre l'Égypte, il y a eu une fascination extraordinaire pour l'occultisme égyptien, pour la religion antique d'Égypte, de la part des intellectuels et surtout en France. Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu cette approche?
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a la Révolution française et une certaine déchristianisation de la population. Cette déchristianisation rentre en résonance avec un autre élément, c'est-à-dire le peu d'attirance qu'avaient les Français pour l'Ancien Testament, pour la Bible, puisque l'Ancien Testament a été surtout mise en valeur dans les cultures protestantes, et la France étant essentiellement catholique, n'est pas grand compte de l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament donne une approche de la culture égyptienne qui n'est pas positive, c'est le moins qu'on puisse dire, comme en témoigne par exemple un film comme Les Dix Commandements. Dans les pays de tradition protestante, donc, il y avait une vision plutôt critique de la culture égyptienne, alors que ce n'était pas le cas en France. Le deuxième facteur tient, je crois, aussi à la fascination qu'a pu exercer le grand style monumental des anciens Égyptiens. Et il faut bien considérer que ce style est extraordinaire. Quand on se balade dans les ruines de Karnak ou de Louxor, ou quand on visite certains tombeaux, ou même les pyramides, bien sûr, ce sont des monuments tout à fait extraordinaires et fascinants, et qui ont toujours fasciné les gens, le colossal, le fantastique, etc. Donc ça aussi rentre en résonance. Enfin, il y a le fait que dans cette Révolution française, on a pu agir certains groupes qui se réclamaient d'un occultisme qui véhiculait une appréhension de la culture égyptienne qui était complètement fausse parce que revue et corrigée, spiritualisée à leur façon, mais ça, évidemment, ça ne correspond en rien à la culture des anciens Égyptiens. Malheureusement, cette approche de la civilisation égyptienne a encore un certain poids dans la culture actuelle. Quand on voit certains monuments, où il y a beaucoup de symboles égyptiens.
Revenons à Saint-Antoine, qui est considéré comme fondateur du monachisme, comme premier des moines chrétiens. À partir du IVe siècle, le désert égyptien se remplit d'ascètes chrétiens. Ainsi, on peut passer à une autre passion que vous avez et qui concerne le mot Athos et les pères spirituels du XXe siècle. Quel est le lien entre le désert d'Égypte et le mot Athos?
Le lien, il est très très fort, puisque c'est la même tradition que l'on retrouve dans les deux cas. C'est la tradition qui est issue des îles d'Égypte, c'est la tradition des apophtègmes, qui est toujours vivante elle-même au mont Athos. Ce qui fait que même actuellement au mont Athos, on appelle les zones les plus désertiques de la région des déserts, par comparaison ou par évocation avec les déserts d'Égypte.
On peut dire que du fait que l'Empire romain chrétien a perdu l'Égypte assez tôt, a déterminé les ascètes chrétiens de rechercher d'autres déserts et comme ça, ils ont commencé à s'installer au mont Athos.
Oui, je crois que c'est sans doute vrai globalement. Bien sûr, heureusement, il y a toujours des ascètes et des moines au Proche-Orient, mais il est clair que, suivant les périodes, il y a eu des périodes plus ou moins fastes, où ils ont subi plus ou moins de persécutions, eh bien, ils ont dû se rendre dans d'autres lieux, et par exemple, Katunakia, qui est la zone peut-être la plus dure et la plus désertique du mont Athos, Katunakia fut le lieu où se sont rendus des moines venus du Proche-Orient, qui s'y sont installés et qui sont considérés comme étant les premiers à s'être installés dans cette région.
Ivan König, vous avez passé de la langue ancienne égyptienne au grec moderne pour l'amour de la spiritualité orthodoxe contemporaine, pour traduire des livres des pères spirituels importants du XXe siècle au mont Athos. Ainsi, vous avez inauguré une collection aux éditions L'Âge d'Homme qui s'appelle Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle. Parlez-nous, s'il vous plaît, de l'importance de cette collection.
Cette collection donc a été inaugurée par un ouvrage sur le père Joseph Lysicaste qui a été publié en fait aux éditions du Cerf. Cette collection est donc dirigée par Jean-Claude Larcher qui a dû trouver un autre éditeur et qui a donc trouvé L'Âge d'Homme qui a bien voulu abriter désormais la collection. Alors effectivement, la traduction de l'ouvrage du père Joseph de Katunakia est le premier de cette collection. Il a été suivi par deux ouvrages importants, l'un étant celui de Saint Nicolas Velimirovitch, Prière sur le lac, un très beau livre de ce grand spirituel. C'est un spirituel serbe, un des fondateurs, on peut dire, de l'Église serbe actuelle, et qui a été traduit par une jeune serbe qui vit en France. Puis vous avez eu un autre ouvrage qui est aussi important, l'ouvrage sur le père Cléopas du père Ioannichie Balan en Roumanie, qui a été traduit par le hiéromoine Marc. Donc ces deux ouvrages sont aussi publiés aux éditions L'Âge d'Homme. Et évidemment, l'intérêt de cette collection, c'est de montrer que le monde orthodoxe est possesseur d'un énorme trésor, qui est un trésor spirituel, et que cette spiritualité est fondamentalement la même. C'est-à-dire que depuis les déserts d'Égypte, en passant par le mont Athos, ou en Roumanie, ou en Serbie, ou dans tous les pays orthodoxes, vous avez cette spiritualité qui est toujours la même depuis les origines du christianisme.
Oh.
au mont Athos. J'ai eu vraiment l'impression que toutes les histoires sur les moines dans le désert égyptien, tous les apophtegmes des pères ne sont plus que de l'histoire, mais elles sont vécues au présent par les moines du mont Athos. Et la même chose, on peut le remarquer en lisant ce livre sur des paix spirituelles de Roumanie, de Serbie, de Russie, des autres pays orthodoxes. Quelles sont les caractéristiques principales de cette spiritualité ancienne, mais aussi tellement moderne et contemporaine pour l'Église orthodoxe?
C'est difficile, évidemment, de résumer une spiritualité en quelques mots. Mais pour reprendre les paroles d'un grand saint, Saint Séraphin de Sarov, il expliquait que le sens de la vie chrétienne, c'était l'acquisition de l'Esprit-Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'Esprit-Saint se manifeste à nous au travers donc de l'Église et de ses sacrements, et en particulier du baptême, et que nous pouvons acquérir en quelque sorte cet Esprit-Saint par une sorte de transfiguration de la personne, et que cette acquisition se fait par la grâce de l'Esprit-Saint, mais aussi par les efforts de l'homme, qui d'ailleurs ne détermine jamais la grâce de l'Esprit-Saint, qui elle reste totalement évidemment indépendante et libre. Et donc cette transfiguration de l'homme se manifeste au travers de toute l'existence humaine et transfigure en quelque sorte le chrétien. C'est en quelque sorte le sens profond de la vie chrétienne. Et Saint Séraphin de Sarov a illustré lui-même ce sens en se montrant transfiguré dans la lumière à son disciple Motovilov.
Revenons maintenant avec des précisions sur votre livre qui a ouvert cette collection aux éditions L'Âge d'Homme sur le père Ephrem de Katounakia.
J'aime beaucoup cet ouvrage parce qu'il est très humble, très humain. Le père Joseph de Katounakia n'hésite pas à décrire les difficultés auxquelles a pu se heurter le père Ephrem. En même temps, il montre aussi que la voie, en quelque sorte, spirituelle, ce n'est pas forcément des grandes ascèses, mais ça peut être dans le quotidien, une humble ascèse, l'humilité qui est au cœur de l'ascèse chrétienne, et cette humilité qui s'exprime en quelque sorte par l'obéissance. Et effectivement, l'ancien Ephrem de Katounakia a commencé par vivre plusieurs dizaines d'années, près de 40 ans, en étant quasiment disciple d'autres moines, qui d'ailleurs n'avaient pas toujours un caractère facile, et c'est dans cette obéissance qu'il a en quelque sorte vécu et transformé et transfiguré sa propre personne, qui peu à peu en quelque sorte s'est révélée être vraiment porteuse de l'Esprit-Saint, comme en témoigne d'ailleurs cet ouvrage où on trouvera beaucoup d'apophtegmes qui sont tout à fait comparables à ceux qu'on trouve dans les déserts d'Égypte. Donc c'est un ouvrage qui est très accessible, qui est très lisible, et je crois que tout le monde peut en tirer son profit, peut en tirer quelque chose pour lui. Et ce que manifeste aussi l'envergure de ces spirituels, c'est que justement, après une première phase de lutte intérieure, ils se sont ouverts en quelque sorte aux autres, et ils ont reçu beaucoup de gens, et ils ont dû en quelque sorte répondre aux besoins des chrétiens dans leur ensemble. Et donc c'est une spiritualité qui est une spiritualité aussi ouverte et accessible à tous.
On peut dire que cette spiritualité a rayonné aussi en Occident pendant l'histoire de l'Église chrétienne, n'est-ce pas?
Bien sûr, c'est-à-dire que à l'origine, il y avait la même spiritualité en Occident qu'en Orient. Donc c'était simplement la spiritualité chrétienne qui a eu évidemment ses grands saints, par exemple Saint Martin de Tours, Saint Cassien aussi.
Qui d'ailleurs a visité les moines dans le désert d'Égypte.
Saint Cassien a eu une très grande importance parce qu'il a en quelque sorte été l'intermédiaire entre cette spiritualité des déserts d'Égypte et la spiritualité monastique, on peut dire européenne, et il a apporté ce trésor en Occident.
Quels sont vos projets actuels? Vous préparez encore des livres pour cette collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle?
Oui, en continuant en quelque sorte le travail sur cette spiritualité, je voudrais montrer un peu son rayonnement. Et il est intéressant de voir comment, par exemple, le père Joseph Lézikas, qui est un très grand spirituel, et donc le premier livre sur lui était aux éditions du Cerf, le père Joseph Lézikas est aussi l'auteur de beaucoup de lettres. et il répondait en quelque sorte aux besoins de tous les chrétiens en leur donnant des conseils spirituels. Et je crois que ça, c'est extrêmement important parce que c'est là où on voit la grandeur d'un spirituel. Un grand spirituel, c'est quelqu'un qui est capable justement de répondre à tous les besoins et aux besoins les plus humbles. Et je crois que dans ces lettres s'expriment justement les besoins spirituels des plus humbles. Et c'est pour ça que je trouve que le travail que je fais actuellement est important et se situe en quelque sorte dans la continuité du travail précédent.
Dans la paroisse dont vous faites partie, Saint-Séraphin de Sarov, vous organisez aussi des rencontres autour de la spiritualité orthodoxe. De quoi s'agit-il?
Oui, effectivement, nous sommes deux avec un fidèle donc de la paroisse François Guès. Nous organisons un petit groupe de travail sur la philokalie. Nous avons commencé à travailler sur la philokalie l'année dernière. Nous avons abordé plutôt des grands thèmes, ce que le père Placide, dans son petit ouvrage sur la philokalie, appelle des préalables, le père spirituel, le repentir, etc. Cette année, nous voulons continuer et nous voulons aborder cette fois-ci des notions clés, l'âme par exemple, le nous, la patia, la théologie, etc. Donc un certain nombre de notions clés et de voir, en partant d'un texte qui sera le traité sur la prière des Vagrolobpontiques, comment les différents auteurs de la philokalie traitent de ces notions, comment ils les abordent et comment ils les intègrent dans leur spiritualité. Dans ce groupe sur la philokalie, il y a des gens qui viennent de partout. Nous avons des Libanais, nous avons des gens de l'Église grecque, nous avons des Roumains, nous avons des Russes, vraiment tout le monde.
Chers auditeurs, nous vous invitons à écouter nos émissions précédentes sur le site internet de l'émission à l'adresse suivante ordradio.free.fr et de nous écrire vos impressions à l'adresse électronique ordradio@free.fr. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines des monastères Simonos Petra au Mont Athos et Saint-Antoine le Grand dans le Vercors et par une chorale des moines coptes d'Égypte. Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguien 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM.